Bonsoir à tous. Je me présente, Marie-Andrée Lamontagne. J'aurai le plaisir d'animer la prochaine rencontre, la prochaine heure et demie, oui, une heure et demie que nous passerons ensemble en compagnie de Edem Aoumé, l'écrivain, le romancier Edem Aoumé. La rencontre de ce soir, elle est dans un contexte précis. D'abord, il y a la parution de deux romans, on va en parler, mais c'est aussi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Tout le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et puis, donc, il y a une série d'activités. Vous avez vu les vitrines de la librairie Olivieri, et puis dans d'autres endroits en ville aussi, on tient à souligner, à attirer, à braquer les projecteurs sur ce pan de l'histoire. Et il y a Radio Spirale qui est avec nous ce soir, qui va faire aussi, qui a déjà commencé d'ailleurs, à faire tourner ses machines. Et donc, ce sera rediffusé sur les ondes de Radio Spirale, qui ne sont pas des ondes, qui sont en fait un signal, je n'y connais rien, vous avez compris, en matière d'informatique, mais je sais que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien. Alors, rencontre avec Edem Aoumé, vous êtes roman, je vais vous présenter brièvement, vous êtes romancier d'origine togolaise, établi au Québec, à Gatineau, d'où vous venez d'ailleurs ce soir directement, et ça depuis quelques années. Vous êtes l'auteur de deux romans remarquables et remarqués, Les Pieds Sales, il est là devant moi, Les Pieds Sales, publié au Boréal l'automne dernier et qui vous a valu de figurer dans la liste du Goncourt, et Port Mello, paru en 2006 chez Gallimard dans la collection Continent Noir, collection dédiée aux littératures africaines. Ce roman, Port Mello, a remporté le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, donc c'est des débuts à juste titre remarqués. Donc la formule de ce soir, c'est entretien, je vais m'entretenir avec l'auteur, on va émailler les propos de Edem avec des lectures. Vous allez lire quelques passages, peut-être. Vous avez, si vous voulez, on verra.
On va essayer.
On va essayer. Vous savez lire, tout de même. Et écrire, ça, vous l'avez prouvé. Donc, lire, ça pourra très bien aussi être inséré dans la conversation. Tout naturellement, vous avez préparé des passages. Et puis, la dernière partie, il y aura les questions du public. Questions, remarques, commentaires. Ce sera sous... L'entretien se prolongera tout naturellement vers vous. Et ceux qui le voudront pourront aussi acheter, parce qu'on est dans une librairie, des exemplaires du roman et puis le faire dédicacer. Vous voudrez aussi vous prêter peut-être aux dédicaces, au rite de la dédicace. Donc, je l'ai dit, vous êtes né à Lomé, capitale du Togo. Ça, c'était en 1975. C'est dans les notes qui vous concernent. Vous avez vécu en France, vous êtes établi au Québec. Vos deux romans, vous êtes au début de votre œuvre, racontent l'errance. En fait, ils ne la racontent pas, c'est beaucoup mieux. Ils la donnent à voir, ils la font ressentir. Nous allons revenir sur ces deux romans, mais ma première question, de manière plus générale, dites-moi si le lieu de naissance est important pour un écrivain tel que vous le concevez.
Oh, très intéressé. Alors d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir à ce très beau public qui pour écouter notre modeste personne. Alors si le lieu de naissance est important dans notre démarche d'écriture, je dirais oui et non. C'est-à-dire dans la mesure où on vit sa naissance d'une manière ou d'une autre, je crois que ça peut forcément représenter quelque chose dans notre processus d'écriture. La naissance, la naissance, elle n'est pas que géographique. La naissance, c'est aussi, un lien qu'on développe avec une société. Ce sont des ponts qu'on trace avec tous ceux qui vivent autour de nous et en nous. Et je pense qu'on arrive à un point où il y a une tension, il y a une sorte, quelque chose de l'ordre du commerce qui se crée. Et en ce moment-là, je crois qu'il y a comme un déclic. On se dit oui, voilà, on sort d'un état plus ou moins, j'allais dire abstrait, et on arrive à prendre le poids, de ce qu'on vit, de ceux qui vivent autour de nous. C'est-à-dire que au moment où les liens entre nous, et notre espace devient de plus en plus fort, je pense qu'en ce moment-là, il y a quelque chose qui naît. Hein. Moi, je dis que je nais tous les jours. Au fil de mes traversées, au fil de tous ces voyages-là que nous avons l'habitude, enfin, la chance hein, de faire, parce que nous essayons de faire ce métier-là. Oui, je crois que le Togo a été, comme lieu de naissance, a été important dans ma démarche. La France, évidemment, parce que ce deuxième livre évoque la France. Ben, le Québec aussi, je crois que oui. La naissance a forcément quelque chose à voir hein, dans ce que nous faisons. Mais il ne s'agit pas non plus de s'enfermer dans cette naissance-là. Peut-être aussi plutôt sortir de cette naissance pour aller interroger, chercher autre chose. Donc je crois que peut-être ça a été ma démarche à moi. Je suis née au Togo, j'ai grandi là. Nous y avons vécu des choses plus ou moins douloureuses. Il y a 2-3 personnes dans ce public qui peuvent en témoigner. C'était ça aussi, une naissance douloureuse, brutale, hein, dans un pays qui n'a jamais été vraiment libre. Alors forcément, le but pour beaucoup hein, de jeunes de ma génération a été de sortir de ce carcan-là. La naissance, c'est aussi l'image d'un ventre. Là, on a l'image du ventre hein, d'une maman et l'enfant, il sort et il arrive à une sorte de lumière. Mais nous n'avons pas été... Hein, dans ce ventre-là, qui aurait été un peu comme un refuge. Non, ce ventre, il a plutôt été comme un carcan, comme une prison. Donc peut-être au début, fuir d'abord le lieu de la naissance pour mieux y revenir finalement.
Oui. Ouais. Et à ce moment-là, c'est le lieu, le même échange, le même lieu d'échange que vous décrivez pour ce qui est du lieu de naissance. Il se prolonge dans le lieu d'habitation. Là où on habite, ça donne lieu aux mêmes renaissances successives ou naissances successives qui sont celles qui vous caractérisent, si je vous ai bien compris.
Oui, bien sûr. Moi, je crois que depuis déjà, enfin, quelques années que je suis dans ce grand et beau pays, je renais.
Oui.
Je crois qu'il y a quelques jours, je suis devenue citoyenne de ce pays. Alors, c'est une histoire de naissance aussi, forcément.
Ouais.
Alors oui, naissance. Naissance de mots aussi, d'un dialogue entre moi et mon espace. Je dis souvent que je commence à écrire un livre sur un espace quand le dialogue justement hein, avec cet espace-là atteint un certain niveau, hein, une sorte, on arrive à une sorte d'osmose et en ce moment-là, il y a quelque chose qui naît. Hein, je crois que
mais osmose, ça, osmose, c'est très fort le terme.
Oh bah oui,
vous le revendiquez,
pas.
C'est d'être
si
de
je...
plein pied dans une société. Or, en tout cas, dans les pieds sales, on va en parler plus précisément, mais le personnage principal qui s'appelle Askia, il n'est pas de plein pied dans cette société. Il est en retrait, on le marginalise, et il n'est pas le seul d'ailleurs à être marginalisé.
Oh bah oui, vous savez, Askia, c'est un bonhomme un peu bizarre parce que, enfin, je voudrais peut-être pas être à sa place. Je pense que Askia, vu son histoire, vu ce qu'il a parcouru, vu tous ces fantômes qu'il porte dans son blouson et dans son placard, eh bien, ce bonhomme peut difficilement s'identifier à un lieu. Et je crois que tout son parcours, finalement, obéit hein, peut-être à ce désir désespéré, eh bien, de naître ou de renaître quelque part finalement. Hein.
Oui. Mais pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, on va parler un peu, on va présenter un brièvement ce roman, ce grand beau roman. Je le dis, c'est vraiment, c'est un mélange parfaitement heureux d'onirisme et de réalisme. C'est très, enfin moi ça m'a beaucoup plu. Alors le personnage principal de Pieds sales s'appelle Askia, on l'a dit, il est chauffeur de taxi à Paris. Il n'a pas connu son père. Qui s'appelle Sidi Ben Sila. Son père est parti vers le nord pour ne plus revenir. Et le fils croit parfois l'apercevoir dans Paris. Le fils nomade dans son taxi, donc taxi assez précaire ou demeurant. C'est un leurre, bien sûr. Ce n'est jamais son père qu'il voit. Bon, mais voilà le début, en fait, du roman ou la trame du roman. Mais j'allais vous demander, que représente le nord pour un Africain? Ou si la question vous paraît trop générale, que représente le Nord pour Askia, cette idée d'aller vers le Nord?
Alors, que représente le Nord pour un Africain ou pour Askia? Je pense que si c'est... les deux formulations se rejoignent quelque part. Hein, pour avoir été gamin sur la côte ouest, alors le Nord, c'était d'abord la terre étrange. Le Nord, pour nous, c'était d'abord une peau. Quand nous étions dans ce quartier... qui s'appelle le quartier des franciscains. On avait un curé, nous étions dans une école catholique. Le curé, il était français, c'était un curé qui il était breton. C'était ça le Nord avant
c'était tout. C'était la Bretagne.
Ouais. C'était ce curé-là qui était très 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 dur. Hein. Il y avait une discipline d'enfer. C'était ça le Nord pour nous. C'était ça l'étranger.
Et un Nord incarné
justement.
Dans un homme.
Oui, un Nord fait chair et sang et chicote parce que ce bonhomme-là il nous tapait dessus. C'était ça, c'était quelque chose qui venait très loin et qui devait, un bonhomme qui venait de très loin et qui devait, eh bien, discipliner les petits nègres que nous étions, hein, sous les palmiers. Alors, le Nord, c'était aussi, des lectures, la découverte d'auteurs. Très, très jeune. Moi, je dis souvent que j'ai eu la chance de lire très, très tôt parce que nous étions mon père avait quand même une petite bibliothèque, c'était pour moi une chance à l'époque. C'était aussi des livres, un espace vraiment lointain, étrange, avec des personnages. Et disons cela, je repense à un livre, l'un des tout premiers hein, que j'ai eu à piocher dans la bibliothèque de mon père. Quand j'ai bibliothèque, c'est quoi, étagère, disons. Hein, je vais dire, c'est juste deux niveaux. Il y avait donc un bouquin qui s'appelait, je crois, Ebel inventa le téléphone. Bon, c'était ça, hein, grand bel inventeur le téléphone. Donc plus tard, on me dira que ce monsieur, eh bien, avait des origines canadiennes. Bon, c'était ça aussi, hein. Donc le Nord, c'était ça, une invention. Hein,
mais c'est pas tout à fait la littérature, ça.
Non, c'est pas tout à fait la littérature, mais il y a autre chose, hein. Donc à côté de ce livre-là, et bel inventeur le téléphone, il y avait autre chose. C'était un bouquin c'est un Américain qui avait fait ce livre-là. Ça s'appelait, je crois. Les promesses du matin. C'est une histoire de voyage. Hein. C'est l'histoire de pionniers, je crois, irlandais ou je sais plus qui quittaient l'Europe et qui arrivaient quelque part aux États-Unis et qui devaient se construire une maison. Donc on suivait un peu le périple de cette famille-là. C'était ça aussi, hein, le Nord. C'est beaucoup de choses. Le Nord, c'est aussi quand on arrive un peu. Au début de l'adolescence, en ce moment-là, on a la permission d'aller sur le bord de mer. Et alors, nous voyons hein, ces navires qui allaient et qui venaient. C'était ça aussi, hein, le Nord. Et le Nord comme douleur, finalement. Et quand on devient plus lucide, on grandit, on le voit. Douleur parce que beaucoup de jeunes, donc, voulant sortir plus ou moins de cet espace où ils avaient très, très peu de chances d'évoluer, eh bien... Ils étaient là, rêvant à ce départ, hein, qui devait les sauver de quelque chose. Donc c'était ça aussi. Donc le Nord, ce serait très très polyphonique pour nous. Hein, je pense qu'on y passerait la soirée hein, s'il fallait donc le décliner sur tous les tons.
Ouais. Oui, mais c'est presque, en fait, c'est un mythe, c'est le mythe du Nord pour un homme du Sud. Mmh. Est-il seulement économique? Bien sûr, j'entends bien dans ce que vous dites, il y a le désir d'aspirer à une autre vie, d'améliorer son sort. C'est d'ailleurs, mais il y a des illusions parce que, par exemple, si on revient à Askia, le personnage, vous écrivez le ventre froid à son arrivée, donc à Paris, que trouve-t-il? Ben, c'est le ventre froid, humide et sale d'un grenier de lutèce. Voilà ce qui l'attend. Donc, il s'agit d'améliorer son sort, mais dans ce que vous venez de dire également, on sent dans ce Nord qu'il représente autre chose, comme une possibilité qui séduirait par son indéfinition même. Alors que la vie dans le Sud, en tout cas dans les romans, paraît figée, réglée dans la répétition, dans le même aussi.
Oh oui, ce serait à ce niveau-là, je crois, un immense canular. Hein. Je crois que tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'exil, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc je crois que c'est l'Europe, l'Amérique, c'est un grand rêve. Hein. Oui, je l'avoue, ça a été un grand rêve. Pour moi aussi, parce que je voulais sortir du pays, je voulais aller voir autre chose. Je voulais voir le monde, oui. Et c'est vrai qu'on se fait une idée, forcément. Hein, on se fait une idée. Et bien quand on arrive, je crois qu'on découvre la vraie réalité. Et alors, on dépasse, hein, j'allais dire, la désillusion immédiate et on essaie finalement... eh bien, de vivre cet espace tel qu'il est. Je crois que c'est ça aussi. C'est un voyage, eh bien, du rêve, alors d'un monde rêvé à quelque chose de plus concret. Et ça participe aussi, je crois, de la maturité des voyageurs que nous sommes, finalement.
Vous avez dit canular, immense canular. Qui lance le canular? Qui entretient ce canular?
Oh oui, question difficile.
Ceux qui partent aussi l'entretiennent, non?
Oui,
c'est ça. Ceux qui reviennent et ceux qui ne reviennent pas.
Ça, c'est une question à 1000 dollars. Oui, question difficile parce que, oui, c'est qui entretient ce canular, je sais pas. Alors, disons cela, je pense à quelque chose. Il y a très, très longtemps, on avait un ami, moi j'étais encore gamin, qui était parti, qui avait tenté sa chance. Et quand il envoyait des lettres, en ce moment, l'Internet n'existait pas, il disait qu'il avait réussi. Et quand il arrivait, quand il revenait de vacances à Lomé, donc on le voyait claquer les sous un peu par-ci et par-là. Je crois que c'était... il était très, très lumineux. Donc ce bonhomme, forcément, il projetait une image. L'image que, eh bien, tout serait rose de l'autre côté de l'océan. Et bien des années plus tard, comme dirait l'autre, Garcia Marquez, j'arrive à Paris, je retrouve le même bonhomme, qui n'a pas évolué d'un poil, parce que c'est dur, c'est dur l'exil, et vivait dans une chambre de bonne, quelque part, sous les toits de Paris. Mais quand ce bonhomme là revenait à Lomé, c'était l'image même de la réussite, c'était le flamboyant finalement. Mais tout n'est pas là, ne restons pas non plus au niveau de ces petites expériences individuelles. Je crois qu'il appartient à chacun, eh bien, de vivre d'abord son rêve, parce que le monde, il faut d'abord le rêver. Les voyages que nous avons faits, je pense, moi j'ai d'abord rêvé mes voyages. Alors, j'ai été déçue, parce que j'ai découvert après, à certains endroits. Mais il y a aussi certains moments où je n'ai pas du tout été déçue. Donc je crois que c'est complexe, ce n'est pas simple. Donc qui entretient finalement? Eh bien, ce canular, c'est l'inconnu, c'est la peur aussi, c'est un espoir fou finalement.
C'est le besoin de rêve chez chacun aussi.
Ah oui, parce que le jour où vous cessez de rêver, vous crevez. Et disons cela, je repense à un livre, c'est un livre de Tahar Ben Jelloun qui s'appelait La prière de l'absent. Est-ce que c'est la prière de l'absent? Non, ce n'est pas la prière de l'absent, c'est aveuglante absence de lumière, je pense que c'est... c'est l'histoire d'un bonhomme qui, dans les années 70, suite à un coup qu'ils auraient tenté contre le roi Hassan II, a été mis en prison, a été enfermé dans cette prison souterraine qui s'appelait Casmamart dans le désert. Ça, c'est un grand drame. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça le Maroc aussi. C'est pas seulement les marchés ou les plages. Non. C'est ça aussi. C'est des gens qui sont enterrés vivants dans des prisons. Ce bonhomme a tenu près d'une trentaine d'années. Il avait un espoir, et l'espoir de voir la lumière un jour. Je crois que ça paraît d'une simplicité biblique, mais c'est ça aussi. Je pense que tant qu'on a, tant qu'on entretient le possible d'une lumière au bout du tunnel, je crois que, eh bien, on survit. Ce monsieur a survécu parce que, dans sa tête, il gardait cette lumière-là. Et c'est ça qui, nous permet, nous, de progresser, parce que quand vous êtes né quelque part, devant vous, c'est le vide, je sais pas, alors tout ce qui vous reste, c'est la foi, quand j'utilise le mot foi, je ne suis pas, il n'est pas biblique dans ma bouche, je parle d'espoir ici, il faut croire forcément. Le jour où vous arrêtez de croire, il crève, c'est ça la réalité. Ouais.
De croire et de rêver, les deux sont liés. Oui. Donc cette aspiration au rêve, elle est légitime. Alors, parlons de voyage, parlons de nomadisme, puisque nous y sommes tout naturellement entraînés par les déplacements. Les pieds sales, il faut donner une petite explication de l'expression. Ce sont les pieds des grands exilés du Sud qui ont traversé le désert du Sahel, et l'expression devient emblématique des errants, de ceux qui, dans ce roman, Les pieds sales, l'errance est comme une fatalité. ou un atavisme plus que comme un mode de vie, je dirais. Un mode de vie qui pourrait, par exemple, se rattacher d'un côté à un mode de vie traditionnel. Il y a de grandes figures nomades dans l'Afrique notamment, dans d'autres cultures, ou alors de l'autre côté à une frange privilégiée d'occidentaux qui ont fait du postmoderne de préférence, qui ont fait du voyage un mode de vie. Alors, existe-t-il un nomadisme proprement des gens du Sud?
Non, je pense pas. Non. Les pieds sales, je dis souvent que c'est des gens qui ont marché. Et c'est une image toute simple et toute plate. À force d'avoir marché bien, ils ont les pieds sales. Hein, et c'est... Bon, je donne ce titre aussi parce que je ne suis pas modeste. Je voulais... Non, je plaisante évidemment, mais
alors si l'image est forte.
Oui, l'image est forte. Je me disais qu'un jour, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, on en parlera comme on parle des boat people. Mais non, c'est pas vrai. Non, je pense que j'avais cette image. Non,
c'était votre orgueil.
Pas du tout. Non. Ouais. Non, c'est parce
que. Mais pourquoi pas? Oui.
Je pense que c'est. Il y a des voyageurs, il y a des gens qui ont vraiment traversé de vrais déserts. Moi, j'ai pas vécu cela, donc je ne peux pas me permettre de non. Non, je pensais que ça renvoie une certaine réalité. Mais cela dit, est-ce que cette errance là, est-ce que cette circulation permanente, cette circularité, est-ce que ça participerait d'une sorte de malédiction africaine? Non. C'est vrai que j'utilise le mot dans le roman. Mais ça, c'est le délire, c'est le personnage dans son délire qui utilise ce mot-là. Je pense qu'il y a un rapport, c'est vrai, à l'histoire, hein, une histoire qui a été faite, hein, de déplacement, hein, de razzia, hein, bien avant la traite négrière, hein, je pense que beaucoup d'esclaves noirs travaillaient du côté de l'Arabie ou un peu plus loin. Et après, donc c'est cette route triangulaire qui a duré alors quelques siècles. Et donc après, donc, ça s'arrête. D'autres voyageurs arrivent en Afrique, la colonisation. Donc ça a pris encore quelques années. Et les Africains, repartiront également aussi sur les routes. Je pense que c'est juste un rapport à l'histoire. Et encore aujourd'hui, cet exil continue. Non, pas de malédiction ici. Je pense que s'il y avait eu une malédiction, peut-être que je n'aurais pas fait ce livre-là. Personnellement, je n'accepte pas la malédiction. Je crois que pour moi, l'écriture, c'est un acte d'espoir, hein, un acte justement, un moyen, de dire autre chose, non pas dire autre chose, dire qu'il y a on peut au moins par les mots essayer de créer ce monde-là qui peut un peu fonctionner en surrépression au monde un peu plus ou moins plat, plus de temps en temps ennuyeux dans lequel nous vivons. Je pense que telle est la réalité simplement. Oui, il n'y a pas de malédiction.
Oui. J'ai dit errance, vous avez dit exil. De toute façon, errance, le mot est là aussi dans le livre. Vous avez dit exil, mais nomadisme, il y a, c'est de déplacement. Pourquoi est-ce que le terme nomadisme recouperait forcément celui d'exil? On pourrait aussi imaginer, et ça existe, des déplacements d'abord volontaires, heureux, qui soient et vous avez éprouvé ce plaisir, ce goût de l'autre, ce goût de l'ailleurs, et vous y avez cédé. Le titre du roman, Les pieds sales, montre bien le prix, en tout cas le prix d'une certaine errance, c'est la pauvreté. Mais n'y aurait-il pas, il y a une richesse de l'errance, non?
Oh oui, absolument. Là, je suis d'accord avec vous. L'errance est forcément formatrice. Je pense que c'est il n'y a pas de mélange entre exil et errance dans le roman. Quand on voit bien, on lit bien le parcours de Askia, il est d'abord issu d'un peuple de nomades, hein, un peuple, les Peuls, qui ont souvent circulé, qui couvrent encore une bonne partie de l'Afrique. Donc, il vient de ce monde-là. Et il essaie, je pense, à travers ce voyage-là, qu'il descend finalement vers la côte ouest. Je pense que son exil, qui se lit comme l'absence du père finalement, va vraiment commencer Quand, oui, justement, quand donc ce dernier ne sera plus là, je crois que le vrai exil pour lui n'a peut-être pas été africain finalement. Son exil va commencer, eh bien, dans ce grand Babel parisien. Hein, c'est ça aussi, un exil qui se lit comme une perte de tous les repères. Parce que ce bonhomme, alors quand il avait gamin avec les deux parents à côté, il avait des repères. Difficile de parler d'exil en ce moment-là. Mm. Mais une fois qu'il arrive à Paris, vraiment désorienté, désœuvré, désargenté, et dans ce taxi, eh bien, symbolique de la circulation, là, je pense que là, on lit finalement un exil plus évident. Ouais. Ouais.
Et on lit aussi une quête du père avant tout. C'est la quête du père qui colore l'exil et qui marque l'exil, qui plombe l'exil en quelque sorte.
Oui, la quête du père la quête du père, c'est bon, enfin. La dernière, en octobre, les jeunes lycéens à Paris m'ont demandé, mais attendez, vous êtes foutus de nous parce que finalement, ce père, est-ce qu'il existe? Parce qu'il n'a jamais retrouvé son père. Est-ce que finalement, la recherche du père ne serait pas comme un prétexte à histoire? Je pense qu'il y a souvent, quelque chose qui nous fait partir, quelque part. C'est peut-être pour aller, parce que moi je dis que je suis un exilé culturel. Je suis partie hein, pour apprendre, pour voir autre chose. Il y a ceux qui partent parce qu'ils ont faim et qui échouent aux portes de Libye, aux portes de Santa Cruz, de Tenerife, de Melilla et Lampedusa. Il y a ceux qui partent aussi pour retrouver quelqu'un, tout simplement. Hein. Donc je pense que oui, la quête du père était l'élément déclencheur donc, du voyage de notre ami Askia. Mais ce voyage, c'est aussi pour fuir un passé très, très, très lourd de miliciens. Hein, l'exil, finalement, comme un salut. Puisque ce passé-là, il est très noir. C'est un bourbier. Alors, oui.
Et puis, on l'a vu à l'œuvre, de toute façon, dans Port-Mello, plus, de manière plus frontale.
Oh, Port-Mello, oui, ça remonte quoi 2005-2006.
Oui, c'est
j'ai,
ancien.
J'ai déjà tout oublié concernant Port-Mello.
Eh bien, il y a une certaine vision très, 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 très noire de l'Afrique. Mais revenons à la quête du père. La quête du père comme ressort romanesque. Mm-hmm. Il y a des précédents fameux en littérature. D'ailleurs, il y a des références littéraires. Non seulement vous avez beaucoup lu, vous avez beaucoup assimilé aussi. Et il y a des références littéraires qui irriguent vos romans. Et une quête de père fameuse, c'est celle de l'Odyssée d'Homère avec Télémaque qui au début du long poème se lance à la recherche de son père et qui lui aussi était parti pendant très très longtemps. Il y a d'autres références, par exemple à Pedro Páramo, hein, oui, dans votre roman de Juan Rulfo, qui évoque aussi une quête du père. Et puis il y a d'autres références littéraires, je l'ai dit, dans Port-Mello, par exemple Eurydice. Hein, voilà, Orphée et Eurydice, un autre mythe grec. Eurydice, pour ceux qui l'ignoraient, c'est-à-dire meurt ou est aux enfers. Et c'est Orphée, par sa lyre, donc poète, par la littérature, qui pourrait l'en sortir, s'il avait le courage, s'il avait la force de ne pas regarder en arrière. Mais est-ce qu'un écrivain, un poète, peut ne pas regarder en arrière? Orphée regarde en arrière et perd Eurydice.
Oui, encore une question difficile. Est-ce qu'un écrivain peut ne pas regarder en arrière? Non, je pense qu'il faut... quelquefois, c'est dur. Enfin, tout dépend de ce qui existe, justement, derrière nous. Tout dépend. Hein. Je pense que quelquefois, il faut avoir le courage de se retourner, de faire face à nos fantômes, peut-être, hein, pour mieux les affronter, pour mieux les battre. Je crois que c'est... En écrivant, c'est tout ça. Il y a ceux qui font le choix, hein, c'est simplement d'aller de l'avant. La question, c'est comment peut-on aller de l'avant, eh bien, sans avoir réglé les comptes, hein, avec un certain passé. Je pense que c'est ça aussi un acte. Enfin, bon, l'écriture, un roman. Je pense que c'est pour moi, c'est aussi alors le l'image d'un fleuve, hein. C'est vrai que le fleuve, c'est vrai que c'est quand on est bien dans le lit, quand on suit le vent, c'est oui. Alors oui, alors est-ce qu'un écrivain peut ne... C'est ça, là. Est-ce qu'un écrivain peut ne pas regarder à l'arrière? Moi, je...
A-t-il cette possibilité? Non, mais étant donné la nature même de la littérature et du geste d'écrire.
Ah oh bah oui, moi je dis souvent que tout le temps je regarde en fait derrière moi hein, pour voir si je suis pas suivie et si je suis suivie, donc je me dis que je ne dois pas être si alors que je dois être un peu enfin intéressant quelque part, je pense que
donc c'est une bonne chose d'être suivie.
Oh, ça dépend par qui et pourquoi mais bon c'est
Et à quel moment, mais aussi de la journée. Peut-être.
Ah oui. Et moi, vous savez, moi, j'écoute souvent de la musique et des fois, ma femme me dit, mais pourquoi toi, tu écoutes souvent des vieilleries? Écoute, arrête là, un peu avec ça.
Et quelles sont vos vieilleries, pardon? Dites-nous.
Oh, oui. Alors, quand je dis que j'aime le jazz, mais ne me demandez pas de vous citer des compositions ou des auteurs contemporains. J'aime le vieux jazz, j'aime certains classiques, je sais pas, j'ai un rapport très fort au classique. Moi c'est John Coltrane, moi c'est c'est Miles Davis. Alors pourquoi? Parce que pour moi la musique c'est d'abord mon père pendant une partie de sa vie a été musicien et il m'arrive d'écouter de vieux morceaux. D'un orchestre dans lequel il jouait. Et pour moi, c'est ça aussi toute l'histoire de mon père. Je n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais quand je me mets devant mon ordinateur ou bien devant une page blanche, à imaginer une histoire, quelque chose qui me transporterait un peu loin, eh bien, je repense à tout ça. Je crois que finalement, le passé peut servir de ferment à tout ceci, à la construction de ce qui serait l'ordre d'un certain avenir. Quoique j'aime pas trop l'avenir, je préfère le présent. Mais un présent qui est vraiment construit sur la base de choses qui ont compté. Je voulais en venir là. Moi, je me retourne sur les choses qui ont compté dans ma petite expérience. Je crois que tout est là, finalement. Ouais.
Oui, on a parlé. Alors, les choses qui ont compté, souvent, elles accèdent au statut de mythe. La recherche du père, ça a compté. Ce sont des ressorts fondamentaux, ça, de la vie, de la psyché humaine, notamment. Donc, on a parlé du mythe d'Eurydice, Télémaque également. Ce sont des mythes grecs qui ont façonné l'imaginaire occidental. Comment résonne-t-il avec l'imaginaire africain? Les mythes grecs, ce qu'on a appelé la rationalité, la raison grecque.
Oh, la raison grecque, ça c'est...
Ce soir, il n'y a que des questions à 10 000 dollars, de toute façon.
Oh, il y a des questions, il n'y a que des questions à 10 000 dollars. Quel serait le lien entre... Alors, les mythes grecs, pour moi, c'est d'abord des personnages. La mythologie, alors, Eurydice, Orphée... J'ai lu ça un peu tôt. Au départ, je n'y comprenais rien. Je comprenais pas, comment on pouvait, voyager, aller aux enfers et avoir la possibilité, de revenir. C'était des personnages, comme dans une sorte de légende ou de conte. Et on a encore, une tradition du conte en Afrique. Donc, forcément, ça recrée, ça, j'allais dire que ça crée des personnages autour de vous et en vous. Moi, je n'ai pas seulement vécu, avec les vivants en chair, sang et eau. J'ai aussi vécu avec ces bonhommes-là, le bonhomme de l'araignée ou de l'ocre, le lièvre. C'était ça aussi, notre imaginaire et notre réalité en Afrique. La mythologie, m'a aussi offert, j'allais dire, d'autres amis. M'a ouvert d'autres paysages humains. C'est ça aussi, je crois. Et je pense que c'est... Et moi, vous savez, moi, j'essaye quand je fais un livre de ne pas trop coller à ma réalité. Parce que je me dis que c'est un piège aussi. On peut, de temps en temps, aller au-delà de cette réalité-là. Et la mythologie, c'est ça aussi. C'est le monde. présent, mais c'est aussi, j'allais dire, je n'aime pas trop le mot de fantastique, j'allais dire que c'est d'autres facettes d'une réalité possible. C'est ça qui m'intéresse, moi, hein, quand je me mets devant un livre et que je crée un personnage, l'ancrer bien sûr dans un certain terroir, mais pouvoir le faire voyager aussi. La mythologie a été un grand voyage.
Oui, alors précisément s'agissant du réel, c'est une des forces, une des qualités des pieds sales, mais aussi de l'eau, mais plus nettement dans les pieds sales. Je l'ai dit, c'est ce mélange d'onirisme et de réalisme. Par exemple, je vais vous citer une phrase, c'est un zombie que craint Olia la nuit. Olia, c'est une jeune femme que rencontre Askia, avec qui il a un échange très, très suivi. Alors, voici ce qui est écrit. Il avait cru pouvoir se réfugier dans le moment immobile de quelques clichés noirs et blancs. C'est-à-dire... Ouais, c'est-à-dire c'est le zombie qui est craint par Olia la nuit. Et il s'agit de ses démons. Alors, ce sont des répliques. Peu importe au fond ce que dit la réplique, je dirais, ce sont des répliques qui ne sont pas réalistes. Et malgré tout, elles produisent un effet de réel. C'est ça qui est la force, une des forces de ce roman. C'est parfaitement plausible que d'abord qu'il y ait un zombie et qu'il y ait des démons et qu'il s'exprime dans ces termes. Enfin, pour la lectrice que j'ai été conquise par le roman, c'est, tout ça, j'achète sans problème. Alors, rendre compte de la réalité, est-ce que c'est une préoccupation du romancier que vous êtes? Vous avez dit rendre compte d'une des facettes de la réalité, mais de la mettre en résonance avec d'autres facettes et peut-être de les faire s'entrechoquer aussi. Est-ce que c'est volontaire chez vous ou c'est l'impulsion?
L'impulsion, oh oui, si c'est une impulsion. Si je disais que j'étais très impulsive, je pense que je ferais peur à certaines personnes. Non, ce n'est pas l'impulsion. Je pense que rendre compte de ma réalité. Nous avons tous un rapport à la réalité. La réalité, c'est beaucoup de couleurs. Hein. Je crois que ce sont des voix, ce sont des odeurs. Hein. Mais pendant longtemps, pour moi, la réalité aussi, la réalité la plus large aussi, ça a été pour moi de deux couleurs. C'était le noir et le blanc. Stendhal a fait le rouge et le noir, c'était sa réalité à lui, une manière, hein, et bien de. C'était le noir et le blanc. Je me rappelle, tes gamins, la première télé que nous avons eue à la maison, c'était une télé, quoi, c'était du noir et blanc, ouais. Hein, et chaque soir, donc religieusement, je m'asseyais donc devant donc cette télé noir et blanc. C'était ma réalité aussi. J'oubliais toutes ces couleurs du réel. J'oubliais et bien la poussière rouge d'Afrique. J'oubliais finalement la terre, parce que l'Afrique c'est très rouge quand vous descendez. Et bien en Afrique subsaharienne, ce n'est pas la même géographie. C'est très coloré. Mais dans ma réalité aujourd'hui, dans ce que je garde de la réalité de ce que fut mon père, eh bien, c'est ces deux couleurs-là, le noir et le blanc, qui me renvoient à ces autres mondes. Je pense que j'ai peut-être inconsciemment fait le choix, eh bien, de piocher dans cette réalité-là, eh bien, des choses qui me touchent très très profondément, hein, des choses qui auraient un lien, et c'est très égoïste, évidemment, avec mon histoire, finalement. Ouais.
Quels sont vos pères en littérature?
Oh, quels sont mes pères en littérature? C'est très intéressant. Je serais très prétentieux si je disais que je n'avais pas de père. Alors, mes pères en littérature, c'est... Vous savez, mon objectif, et là, je le dis très, très pompeusement, c'est d'arriver à éliminer tous mes pères en littérature, finalement.
Il faut les tuer, oui,
parce
ça,
que
bien
je, parce
connu,
que j'ai bien envie de...
d'exister,
pas d'exister. Non, mes pères en littérature, Antonio Lobo Antunes.
Ah oui, très bien.
La splendeur du Portugal, le manuel des inquisiteurs. Mais remontons, alors déjà un peu plus loin. D'abord mes pères, pas mes pères, mais les premières lectures. Hein, c'était d'abord, Victor Hugo. Je pense à peine adolescent, moi j'avais déjà lu, je sais plus, Notre Dame de Paris, Les Misérables.
Donc les romans.
Oui, classique africain, classique français aussi. Donc je parlais donc de Victor Hugo. Et les classiques africains, Amadou Mpateba, Senghor, on a lu Senghor, pas. J'ai lu Senghor, je n'ai jamais dit qu'est-ce que que Senghor serait pour mon père en littérature, non. Mais ça, c'est un parcours de lecture. Nous sommes tapés aussi, quand nous étions au collège, hein, les dramaturges du XVIe siècle, je crois, il y avait cette phrase célèbre, Corneille assis sur les racines de la bruyère, boit l'eau de la fontaine et joue des cartes avec Madame, je sais pas, de Lafayette, je sais plus. Donc on avait lu tous ces auteurs. Ah ouais. Mais le déclic, hein, je veux dire, qu'est-ce qui m'a donné envie finalement de faire ce boulot, ce métier? C'est quand, au sortir du collège, on arrive au lycée et je tombe sur les écrivains de l'absurde et les dramaturges et un romancier comme Albert Camus. Donc, Eugène Ionesco, donc, le dramaturge, donc Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Ionesco, je pense, en attendant Godot qui ne vient jamais, ça c'est intéressant aussi. Enfin, c'est ça la réalité aussi. Hein, des fois, on attend, on espère ou des choses ou des gens, mais qui finalement n'en arrivent pas. Ça, c'est une réalité. Donc, ces écrivains-là, qui avaient une manière assez précise, spécifique d'interroger le réel, m'ont beaucoup parlé. Et Albert Camus, j'aime beaucoup Albert Camus, vous savez, étant un jour tombé sur cette phrase, hein, quand une fois au tribunal, on pose la question à Meursault, pourquoi avez-vous tué l'arabe? Et Meursault répond, je l'ai tué à cause du soleil. Grosse phrase, comment on tue quelqu'un à cause du soleil? Bon. Et j'ai pendant très longtemps porté cette phrase dans ma petite mémoire. Je me suis peut-être mis à écrire en me disant que oui, que je voulais construire des phrases comme ça, ne fût-ce que eh bien, pour me perdre d'abord et pour mieux me retrouver finalement. Oui. Comment on tue quelqu'un à cause du soleil? Hein, mais bien plus tard en Afrique, j'ai compris qu'on tue des gens à cause du soleil. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on tue des gens à cause du soleil, c'est clair. Et oui, donc, Albert Camus, il y a un écrivain guinéen que j'aime beaucoup aussi, qui porte en lui la douleur de toute la Guinée, pays meurtri, pays qui n'a pas de chance finalement. Thiernu Mwenemgbo, qui a eu le Renaudot, je crois que ça ne veut rien, ça veut pas dire grand-chose, qui a eu le Renaudot en quoi? C'était ici, il y a 2 ans. Kossi Yefui, j'aime beaucoup également Kossi Yefui, c'est un Togolais, enfin, parce que c'est un compatriote. Mais c'est Kossi qui a son propre rapport au réel, c'est ça qui est intéressant chez lui, ouais, donc, beaucoup de ces auteurs-là.
Alors, on voit que les 2 rayons de la bibliothèque paternelle se sont considérablement garnis de toutes sortes de titres. Vous avez évoqué de la toute petite bibliothèque, les 2 étagères là,
Oui, bah
qui avaient.
oui.
Donc, la bibliothèque s'est élargie. Dans les pieds sales, vous évoquez à un moment donné ce que vous appelez la Renaissance africaine, des auteurs comme Dubois, Alain Locke, Langton, Hughes, County Cullen, qui à Saint-Germain des Prés, à une époque, vous écrivez, c'est dans le roman, la philosophie bantoue flirtait avec la pensée cartésienne, alors que Sartre, Desnos, Breton étaient les copains de ceux que, dans le roman, vous appelez les nègres de la Sorbonne et du Collège de France. Dites-moi, le flirt, croyez-vous, sincèrement, était-il dans les 2 sens? En somme, la philosophie bantoue pouvait sans doute flirter avec la pensée cartésienne, mais Descartes demeurait français, et Sartre et ses pavés existentialistes demeuraient terriblement cartésiens. Est-ce que l'apport a été réciproque? Peut-il l'être?
Oh, oui, possiblement, ça peut l'être, mais je crois qu'en ce moment-là, dans ces années 30, où Senghor, Césaire, Alioune Diop, Léon Damas et les autres étaient à Paris, dans le Quartier Latin. Eh bien, eux, très franchement, ils voulaient apprendre. Ils savaient très bien qu'il fallait qu'ils apprennent. Et je crois que c'est une histoire de conquête. Pour mieux comprendre, connaître le monde, il fallait qu'ils sachent, hein, qu'ils aillent chercher, hein, ce savoir-là. Pas parce qu'ils, enfin, étaient ignorants, non. Mais je pense que pour mieux appréhender l'autre, eh bien, il faut savoir ce qu'il est, au moins. Et donc, eux, il y avait une volonté, une soif de savoir hein, chez ces jeunes-là. Alors, Robert, alors Desnos, Sartre et les autres, bon, enfin, c'est très personnel ce que je dis, mais je pense qu'ils étaient d'abord des pas très, très curieux. très curieux de voir à peu près si. D'abord, curieux de devant la curiosité hein, et l'enthousiasme de ces jeunes-là. Hein, et alors, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé en ce moment-là au quartier latin. Alors, je ne saurais dire ce soir si ça a été dans les deux sens, peut-être. Je sais que, je pense, c'est Sartre qui a fait une préface qui s'appelle quoi, Orphée Noir, une préface hein, à la première anthologie publiée par Senghor qui a publié une anthologie. Et donc quand on lit Orphée Noir, on voit quelque chose. Hein, Sartre semble reconnaître quand même quelque chose. Hein, quelque chose hein, de l'ordre, enfin il y a comme un souffle artistique, quelque chose de très frais que sa jeune aurait apporté en ce moment-là, quelque chose de l'ordre d'une ligne artistique, hein, quand on sait que eh bien certains retrouveront plus tard eh bien dans ce qu'a fait Picasso eh bien des similarités avec certains portraits ou masques africains. Je crois qu'il y a eu quelque chose. Hein. Il y a ceux qui le reconnaissent et il y a ceux qui eh bien font encore le alors enfin qui ceux qui résistent. Mais ce qui était intéressant pour moi en ce moment-là, hein, c'était de voir comment eh bien beaucoup de choses se construisent eh bien dans le voyage, dans l'exil finalement. Là, quand je suis allée à New York la première fois, j'ai fait une chose, j'ai déposé mes affaires à l'hôtel. Nous étions invités, hein, donc c'était, tout ça c'était très bien fait, on était à Manhattan, et moi c'était pas le plus intéressant. J'ai déposé mes affaires, je suis partie à Harlem. Je voulais voir Harlem, je voulais voir le Apollo Theater, je voulais voir ça. Hein, je voulais voir ces pavés que des gens comme Conti Colon, Langston Hughes, Webb Dubois et les autres ont foulé. Parce qu'on ne le dit pas, on le dit quelquefois, mais la littérature africaine qui est écrite, elle est quand même née, elle est quand même une enfant de l'exil, elle est née sur les pavés de Harlem. Elle était très orale, la littérature chinoise à l'époque. Je sais qu'au 14e et 15e siècle, du côté de Tombouctou, on écrivait sur des tablettes, il y avait une écriture, mais cette littérature écrite dans les langues coloniales, eh bien, elle est née quand même à Harlem. Je pense que c'est... Et moi, je trouve ça merveilleux. Je pense que... oui, c'est ça.
Et qu'elle soit née dans l'une des langues coloniales, l'anglais, en
qu'elle soit née à Harlem d'abord, que ce soit, oui. Ouais, parce que c'est une littérature africaine, mais qui porte quand même la marque hein, de descendants d'esclaves, ce qu'ils ont appelé la négro-renaissance, cette envie finalement d'écrire, de réinventer l'Afrique. C'est ça, moi j'ai trouvé ça. Vraiment formidable. Je pense que tous ces jeunes-là qui étaient à Harlem à l'époque, ils ne connaissaient pas l'Afrique. Mais quel amour ils avaient aussi pour ce continent. Certains seront vraiment déçus, comme, je ne sais pas, si, c'est Baldwin, oui, qui revient en Afrique, mais qui était très déçu par beaucoup de choses, mais ça fait partie du reste, c'est ce qu'on disait tantôt. D'abord rêver à cette réalité-là, et quand on la découvre, bon, on en fait ce qu'on veut, mais c'est très, très intéressant.
Oui, souvent la transformer. Mais donc j'allais dire que cette littérature africaine, cet acte de naissance de la littérature africaine qui s'est prolongée par la suite, soit fait dans l'une des langues coloniales, l'anglais en l'occurrence, mais on pourrait poser la question du point de vue du français, ça pèse ou ça, dans quelle mesure c'est significatif par rapport à l'essence même, toujours les questions à 10 000 $ et d'ailleurs des littératures africaines, bien évidemment, il faut parler au pluriel.
Oui, alors ça veut dire, enfin, est-ce qu'il aurait été possible, enfin, ouais. D'abord, il y a une littérature en langue africaine qui existe, hein, quand vous allez du côté du Kenya, vous avez les Ngugi wa Thiong'o qui font des livres très très forts, hein, en Kikuyu, si bien au Ghana, vous avez des académies Évé où il y a des livres très très forts qui sont faits en Évé. Moi, je dis que ces langues ont été comme un accident de l'histoire. C'est arrivé et nous avons pris ces langues-là et nous avons essayé eh bien de construire notre espace hein, au sein de ces langues-là. Nous avons essayé de reposséder ces langues. Et c'est ça qui est intéressant, finalement. Vous savez, j'aime beaucoup Albert Camus, mais j'ai lu Sartre aussi. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre. Et ça, c'est une des phrases que je porte souvent dans ma valise, qui a dit ceci, que l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce que nous avons fait de ce qu'on a fait de nous. Voilà que nous avons hérité de ces langues-là. Hein, et voilà que je me retrouve, pas incapable, mais ce serait pour moi très difficile eh bien, d'écrire un roman en éveil. Oh, ce serait très laborieux, ça, je l'avoue. Alors, ayant commencé à parler cette langue dès l'âge de 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, elle est mienne. Je pense que pour moi, elle n'est plus une langue étrangère et j'en fais ce que je veux. Elle fait partie de moi aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, il ne se pose plus la question d'une sorte de clivage, hein, d'une distance qui existerait encore entre cette langue et l'éveil ou le mina, mes langues maternelles.
Oui. Et d'autres écrivains, d'autres aires géographiques de l'Afrique, on pense à l'Afrique du Nord notamment, au Maghreb, eux ont emprunté, mais il est vrai, avec d'autres langues, c'est-à-dire l'arabe, une grande langue aussi, avec une force de diffusion plus grande que les langues vernaculaires africaines que vous citez, non? Qui explique que cette langue que l'arabe puisse être un vecteur de littérature algérienne ou marocaine ou pour ce qui est des nouvelles générations là.
Oh ben oui. Ah oui, vous voulez dire une nouvelle génération d'écrivains,
oui,
du
qui ont pris le butin, la langue française est un butin, on s'en empare. Selon la formule célèbre et puis à partir de là, on peut aussi écrire en arabe par exemple ou
Ah ben oui, moi j'aurais voulu écrire en arabe, moi j'adore cette langue. Quand je me suis retrouvée en Afrique du Nord, j'adore la musique de cette langue. Hein. Oui. Donc j'ai dit au début, hein, quel est le niveau eh bien, de dialogue, hein, quel est, est-ce que, enfin, comment suis-je proche ou suis-je loin de cette langue-là, hein. Je crois que tout est là à ce moment-là. Une langue, elle fait partie de nous finalement. Hein. J'ai pas l'ambition un jour d'écrire en arabe. Hein, non.
Vous connaissez l'arabe?
Non, quelques mots, choukran.
Ouais. Oui, choukran, merci. Oui.
Merci hein,
oui.
Pour ces questions à 1000 dollars.
Oui. Bon, on va aller vers le public dans quelques instants qui peut peut-être vouloir réagir, poser des questions, commenter aussi, tout est permis, puis ajouter vos 10 000 dollars à vous. Et à la fin, on sera tous très riches, vous allez voir. Mais il y a dans Pormelo une phrase que j'ai relevée, Pormelo a perdu le chemin de l'arbre, c'est plus loin, l'arbre à palabre, écrivez-vous, c'est-à-dire la sagesse. Y a-t-il eu un temps meilleur pour l'Afrique que maintenant, parce que c'est...
S'il y aurait eu un âge d'or.
Oui, on peut poser la question de cette façon.
Oui, très intéressant. Est-ce que ça existe, l'âge d'or? S'il y a eu un temps meilleur. Alors, personnellement, j'ai eu forcément mon âge d'or, c'est-à-dire le temps de l'innocence, où en étant moins lucide, on voyait pas très bien ce qui se passait, bien ce qui allait et ce qui n'allait pas. J'ai un collègue qui a fait un livre chez Gallimard, quoi, c'est sorti il y a 2 semaines, qui se posait la même question. Est-ce qu'il y a eu un temps où nous avons été libres? Parce que c'est ça, pour lui c'était ça l'âge d'or, liberté, la liberté de pouvoir tout simplement entreprendre, hein, la liberté... Hein, de faire des choix pour sa vie. Alors, c'est ça. Avons-nous eu des choix? Avons-nous eu donc la chance, l'opportunité de faire des choix pour nos vies? Certains l'ont fait. Donc, à des niveaux très personnels, oui, je crois que chacun a dû avoir de temps en temps, une sorte de reposoir, une sorte... Quelque chose, oui, on peut dire âge d'or, hein, où on a eu l'illusion hein, un peu d'une certaine liberté, oui, c'est vrai. Mais sur le plan général de tout un continent, je pense que la question reste à poser. Nous sommes en 2010, les 50 ans des indépendances africaines. Hein, mais quand on fait à l'heure du bilan, je crois que l'optimisme en soi, un courage. Hein, il y a beaucoup de choses qui restent à construire. Ouais. Finalement, ce tâche d'or, s'il a existé, je ne sais pas. J'aurais pu poser la question à mon père, s'il a été heureux. Je pense qu'il a été heureux, oui. dans ce qu'il a essayé de construire, oui, forcément, oui.
Donc l'âge d'or, ce serait d'abord une forme de bonheur.
Le bonheur, si vous considérez que le bonheur existe, oui.
Ce qui n'est pas sûr du tout.
Oh, si, j'éprouve un bonheur immense quand je me retrouve à jouer avec des décors et des personnages, oui. Mm. Mon âge d'or, il est peut-être finalement dans ces lignes que j'essaie d'écrire.
Oui, sur la feuille, quand vous donnez naissance à ces mondes. Alors, question du public, commentaire, je vois qu'il y a un micro qui a été placé au milieu. Donc, vous pouvez aller au micro, vous pouvez aussi vous lever, tout simplement, puis parler d'une voix forte. Ah, mais voilà déjà quelqu'un. Ah non, qui vient régler le micro. Alors, question, commentaire. Monsieur. Au micro, parce que... Ah, c'est vrai, il faut le micro, puisque la radio Spirale doit pouvoir vous entendre.
Je vous en prie. Une petite question très technique, si j'ose dire, n'est-ce pas? Question linguistique. Donc, monsieur, donc, est né donc, dans son pays, au sens le plus géographique, le plus nationaliste, etc., etc. Est-ce que vous aviez, comme beaucoup d'Africains, deux langues, si j'ose dire, à votre naissance? Une langue que j'appellerais donc communément la langue maternelle, c'est-à-dire celle qu'on parle à la maison, celle de maman, papa, papa, maman, et la langue donc du dehors, que j'appelle... Et la première langue n'est pas toujours la langue maternelle. Voilà ma question. Et, ah oui. Et point de suspension, et puis donc on arrive jusqu'à donc l'écriture.
Oui, je pense avoir quoi? Oui, je pense avoir... Enfin, évoquer ça un peu. Oui, moi, à la maison, avant l'école, oui, nous parlions Ivé ou Mina. Mon père Ivé, ma mère Mina, c'est deux langues proches. Il y a des différences, mais c'est quand même très très proche, oui. Le français, donc l'alphabet qu'on a commencé à assimiler à l'âge de 5 ans, oui. Forcément, c'est ces deux langues, ça crée un petit mélange dans la tête. Nous étions, mais ouais, c'est vrai. Et vous savez, mais très très vite, ces deux langues, enfin, ces deux ou trois ou plusieurs langues, finalement, font partie de notre réalité à nous. Je pense que pas de différence. Ouais.
Monsieur?
Merci. Je voudrais continuer, en tout cas, dans le sens des langues. Je voudrais poser une question par rapport à l'utilisation de la langue par l'écrivain. C'est l'écrivaine Kadifal qui disait que l'écriture, la littérature africaine, en fait, est une tradition. Hein? Quel que soit celui qui écrit, quel que soit l'Africain qui écrit, il traduit d'abord une langue. Je dirais que pour avoir quand même lu un peu Amadou Kourouma, que je peux constater dans son écriture cette tendance à traduire en fait du malinké. Il essaie quand même de montrer effectivement qu'il y a une certaine tradition qui se fait dans le livre. Mais je sais aussi que l'écriture d'Amadou Kourouma n'a presque pas grand-chose à voir avec l'écriture d'Edem. Mais la question demeure quand même là, la question linguistique. Est-ce que l'écrivain Edem pense d'abord en Évé, puis traduit en français, ou si les idées lui viennent tout droit du français?
Voilà. Ça, c'est une très très bonne question. Est-ce que je me la suis déjà posée? Oh oui, moi, vous savez, moi, il m'arrive de rêver dans les deux langues. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Hein. C'est, disant cela, je pense à c'est Todorov qui dans, je crois, Nous et les autres, qui disait que pendant très longtemps, donc il vivait déjà en France, Todorov, après avoir quitté la Bulgarie, pendant très longtemps, il a fait le même rêve, où il se retrouvait à Sofia, chez lui, hein, en Bulgarie. Ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il était en France. Il rêvait de Sofia. C'était flou au départ. Je pense qu'au départ, il devait rêver de Sofia, eh bien, dans les mots de chez lui. Mais bien plus tard, il a commencé à rêver de Sofia dans les mots de France, ce que j'appelle les mots de France, oui. Reposons aussi la question autrement. Quand je suis en colère, hein, et Dieu sait que ça, oui, de temps en temps, ça arrive, oui. Alors, aussi brutalement, alors dans quelle langue je m'exprime, je... C'est les deux. Hein, c'est pas une question difficile, hein, mais je crois que pour moi, eh bien, il y a très longtemps, je ne considère plus le français comme une langue étrange ou étrangère. Donc, en ce moment-là, eh bien, et mon imaginaire et la plupart de mes rêves, eh bien, très naturellement, ils arrivent, eh bien, dans cette langue-là, simplement. Ouais. Donc, c'est moi et les autres, oui.
Questions, commentaires? Oui, allez-y, vas-y, monsieur.
Je peux me permettre encore une petite question, parce que la première question ici fut le rapport de l'écrivain au lieu natal. Et lorsque je lis Pomelo, je vois ce rapport quand même très fort. Peut-être parce que je suis du même pays, je vois les choses un peu dans le même sens, et puis j'arrive rapidement à voir les analogies. Donc j'ai pensé, comme plusieurs auraient aussi pensé, que Melo signifie, en fait, c'est un anagramme de Lomé, et donc c'est la capitale, et puis le port, le wharf, et les églises. On avait quand même des lieux, tellement de choses qu'on a retrouvé dans Port Melo et dans lesquels nous nous retrouvons. Et mais lorsque je prends les pieds sales, on a vu vraiment, en tant que lecteur, un grand écart. Lomé, Togo, c'est fini. Oublié complètement. Et donc, est-ce que c'est une distanciation par rapport au lieu natal ou... Ouais.
Oui. Alors, c'est... Oh, bonne question. J'ai écrit Port Melo à Paris. Je crois que je vivais... Ouais, j'étais... Ne parlons pas de nous, mais je pense que je vivais un peu coupé du monde en ce moment-là. Je venais d'arriver dans cette grande ville. J'étais... Enfin, aucun lien. J'ai écrit Port Melo pour retrouver certaines balises, hein, certains repères. Et je voulais aussi régler mes comptes avec l'Afrique, tout simplement. Donc, c'était ça aussi. Et donc, je devais, pour partir ailleurs, d'abord retrouver l'Afrique, le lieu de l'enfance, dans un roman. Ça, c'était pour moi, c'était important. Je voulais faire ce livre-là, comme ça. Hein. Et après, je me suis mis à marcher, à me déplacer un peu dans la géographie. Hein, et donc, ayant vécu quoi, 5 années à Paris, donc on a vécu des choses, on a vu des choses. Nous étions dans la rue aussi pour... porter haut le poing contre le Front National. Hein, c'était ça aussi, la France. J'ai eu la chance de voir ces deux visages d'une France de Paris, intramuros, très jolie. Mais dès que vous prenez le métro, le RER, vous descendez en banlieue, le paysage, ça change. Et tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Hein, donc, oui, et c'est pour ça que les pieds sales aussi, eh bien... Donc, disent mon rapport, hein, à cet espace. Hein, alors, disent, et puis, ce que fut, eh bien, mon expérience parisienne, ouais. Alors, ce n'est pas bizarre, mais je crois que dans ce roman, on revient quand même souvent à l'Afrique. Hein, l'Afrique, je crois que c'est le passé de l'histoire, finalement. Alors, vous voyez, donc, de temps en temps, il se retourne, eh bien, hein, et se passe. C'est quelque chose qui rattrape le personnage. Vous voyez, quelque part, on n'en sort pas. Et puis, on est toujours un peu dans cet entre-deux. Entre cette tentative d'un ancrage dans le présent et, eh bien, ces liens, eh bien, définitifs au passé. Ouais.
Ouais. On parle de Paris et de l'Afrique qui est emporté dans notre conversation. On n'a pas lu, vous n'avez pas lu. Est-ce que je peux me permettre d'avoir un désir que vous lisiez un passage que je vous indiquerai? Parce qu'il me semble s'insérer tout naturellement là, dans ce que vous venez de dire et dans la question de monsieur. Alors, c'est dans les pieds sales. Ce paragraphe qui commence par « il pensait » jusqu'à « Almeria », si vous voulez bien...
Bien, essayons. Alors, il pensait au choix de...
Et peut-être, oui, parler bien dans le micro. Oui. Comment on va faire?
Le micro, comme ceci, peut-être. Il pensait au choix de Paris et comprenait juste que Sidi ne devait pas être une exception. Que, de Cordoue à Bilbao, Matera, Rome ou Paris, il y avait des milliers de métèques poussant leurs pas plus avant vers le nord. Il y avait ceux qui allaient loin, vers Moscou, chercher le savoir dans cette université qui portait le nom d'un chef politique du Congo. Il y en eut aussi un, Tété Michel Koumassi, qui continuait encore plus loin, vers le Groenland et les territoires esquimaux en ces années 70, et ses pieds noirs s'enfoncèrent dans la poudreuse jusqu'aux limites impalpables de sa curiosité, sous le regard amusé des petits hommes, des pôles. Il y avait aussi ceux qui n'allaient pas si loin et dont le projet était de se faire assez d'argent dans les vergers de la Sicile pour nourrir leur famille. Et il y en avait aussi de plus farfelus, fils de berbères et d'arabes qui envahissaient l'Andalousie depuis Tanger, comme pour en refaire une contrée musulmane du temps des Almoravides, quand les sourates étaient récitées dans les demeures d'Almeira.
C'est très beau, n'est-ce pas que c'est très beau? On a l'impression d'ailleurs d'une communauté d'errants, vous appelez pieds sales des gens aussi, de grands poètes comme Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, les esclaves de Virginie, les Mexicains, les Roms, on a envie d'être pieds sales du coup, non, si on doit être en compagnie de, en tout cas certainement de Mahmoud Darwish et d'autres.
Ah oui, ça c'est vrai que quand on, oui, le voyage, eh bien, le déracinement peut être souvent au départ très très douloureux. Mais le plus intéressant, c'est que quand on arrive à dépasser la douleur, il y a quelque chose de très positif. Ouais. Mmh. On dit chez nous, je crois que un jeune qui a voyagé a le même âge qu'un vieillard finalement. Je pense que voyager, c'est avoir donc traverser ces territoires-là. Eh bien, c'est toucher à beaucoup de choses, à une somme de sagesse, à une somme de révolte aussi finalement. Je crois que tout ça est très enrichissant les humains que nous sommes et pour nos projets artistiques, ouais.
Oui, non. Oui. La tête d'un vieillard et le corps la vigueur d'un jeune homme.
Et la tête d'un vieillard.
Oui.
Oui.
Bien rempli.
Mais vivons notre jeunesse aussi.
Oui, bien sûr. D'autres questions, monsieur? Approchez-vous du micro. Voilà.
Merci. Donner la parole. Alors, cette réponse me raccroche à ma question parce que je voulais que Edem revienne un peu sur le thème de partir où le nomadisme n'est pas que douleur, mais ça peut être aussi une richesse. C'est-à-dire que partir, ça fait vieillir un jeune, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Et donc, partir, ça pourrait être aussi une source d'intérêt, une source de richesse. Et là, on a évoqué le départ des Noirs, des Africains qui vont vers le Nord et qui font face, qui découvrent alors une désillusion. Mais je pense aussi que la richesse de partir, ça pourrait être dans un autre sens aussi, pas seulement des Africains qui vont vers le Nord, parce que on peut retrouver aussi des richesses dans l'autre sens, et ça pourrait être un échange. Voilà.
Oui, oui. Alors, est-ce que j'entrevois donc le voyage dans l'autre sens? Ah ben oui, oui, je pense que ce voyage dans l'autre sens, je le vis, parce que moi qui fais ma vie en ce moment ici, de temps en temps, je reviens à l'Afrique, mais pas comme je suis partie, mais... Donc avec ce que j'ai pu apprendre de l'autre côté de la mer, je crois que tout ça est forcément très enrichissant. Et quand vous allez aujourd'hui à Lomé, c'est... Alors oui, le voyage dans les deux sens, il est forcément très... Oui, il est au moins le voyage géographique, il existe. Alors, est-ce que ça... Alors, Oui, forcément, ça sert. Je pense que quand vous allez sur le bord de mer à Lomé, il y a des quartiers où il y a un côté très cosmopolite, il y a un échange, il y a des choses très, très fructueuses. Oui, ça se passe, ouais. Mais il y a aussi il faut avoir eu la chance aussi eh bien, de vivre cet échange dans les deux sens. Vous savez, j'ai souvent, alors j'ai l'impression, et c'est vrai que eh bien, c'est plus facile eh bien, de faire le voyage alors, du nord au sud que du sud au nord. Hein, parce que j'ai eu dans ma vie à demander des visas pour partir en Europe ou aux États-Unis. C'était très difficile. Hein, mais quand vous êtes ici, alors, je pense que on en obtient plus facilement un visa en étant ici. Hein, on peut partir en Afrique parce que c'est des questions d'immigration, hein, les politiques d'immigration. Oui, forcément, ce voyage peut être fructueux, mais je pense que les routes hein, eh bien, ne sont peut-être pas ouvertes hein, pour tout le monde. Je pense que c'est une réalité, ouais. Ah, oui.
Questions, commentaires, réflexions, monsieur. Monsieur Jean Bernier.
Dans le roman, le voyage en sens inverse est également présent dans ce personnage dont on parle très peu, celui de Petite Guinée, mais qui est fascinant.
Oui,
cet homme du Nord qui est allé en Afrique, qui en ramène également des images inoubliables. Peut-être qu'Edem pourrait nous dire un petit peu.
Oui, Petite Guinée, Petite Guinée. C'est vrai, c'est ça.
On est en train d'oublier celui-là.
Ouais. Oh oui, c'est un personnage qui me tient quand même à cœur. J'aime pas trop. Avouez mon rapport effectivement au personnage, mais oui, Petite Guinée qui, eh bien, au temps de sa jeunesse, a été mercenaire et pendant longtemps, eh bien, il a servi donc des gouvernements, il a servi également des rébellions en Afrique, mais petit à petit, eh bien, il a commencé simplement à aimer ce continent, à aimer cette terre rouge, à aimer sa peau noire hein, et ses sourires très, très blancs. Et donc, Petite Guinée, au soir de sa vie, elle a forcément éprouve donc, du remords. Hein, et Petite Guinée, parce que finalement, je pense que ce bonhomme est finalement plus africain que moi. Je crois que... son amour bien pour ce continent a atteint un summum et je pense qu'il porte ce nom-là, la Guinée, où il a vécu pendant un moment. Hein, et l'Afrique, pour lui, c'est aussi ses photos, c'est ses cartes postales qu'il traîne avec lui. Vous avez vu, donc une autre manière de transporter la réalité en noir et blanc, et bien donc dans sa sacoche. Donc c'est tout ça aussi. Un Petite Guinée qui a su récréer l'Afrique dans sa cave du quartier latin à Paris. C'est-à-dire que moi, je me méfie des géographies et des identités caduques. C'est ça aussi. Alors, pour dire que le personnage le plus africain, s'il fallait dire ça comme cela du livre, c'est finalement Petite Guinée, qui alors, finira par mourir dans le ventre de l'Afrique, dans sa cave.
Okay. Ça finit mal, oui. D'autres questions, commentaires? J'aurais une question peut-être en terminant. J'observe que chez Gallimard, vous étiez dans une collection dédiée aux littératures d'Afrique. Au Boréal, vous êtes dans la littérature générale, au Seuil aussi, parce que l'édition en France, c'est l'éditeur, c'est le Seuil. C'était un ghetto chez Gallimard, là où on vous avait mis dans cette collection? Parce que la collection fait débat tout de même. Il y a des auteurs... qui estime que...
Là, je vais faire comme un politicien. Je préfère ne pas répondre à la question. Non. Là, vous savez, pendant longtemps, quand on allait dans les colloques, ici ou ailleurs, moi, je voulais parler de littérature. C'était ça, moi, mon but. Et souvent, on me posait la question, est-ce que c'était un ghetto? Au début, moi, je n'ai pas vécu ça comme un ghetto. Non. Au début, moi, j'ai fait une rencontre, hein, un monsieur très chaleureux, Jean-Louis Kifano, qui dirige encore la collection Continent Noir, qui a 10 ans aujourd'hui, 10 ans cette année, ça fait déjà 10 ans, ça va très très vite, hein, les 10 ans, qui m'a dit, écoute, moi, je je dirige une collection. Envoie-moi un manuscrit, on va voir si je vais lire, on va voir à peu près ce que tu as dans le ventre, on va voir. Et c'est pas, si c'est, je le dis comme ça, c'est dur de trouver un éditeur. Surtout à Paris, c'est dur. À Montréal aussi, c'est très, très dur. Et j'ai souvent la fierté de dire que mon manuscrit, celui-là, au Boréal, je l'ai envoyé par la poste.
Ah oui, tout simplement.
Oh oui, oui, je l'ai envoyé. Ça, c'est une petite fierté. Donc là, je laisse toute fausse modestie. Non. Donc c'est, alors au départ, ça a été une très belle aventure. Vous savez, c'était le but pour moi aussi. Je voulais publier mon premier roman et donc j'ai été acceptée dans cette collection.
Et chez Gallimard, tout de même.
Chez Gallimard, oui. Et mais c'est vrai que quand on arrive dans la maison, on voit mieux certaines petites choses. On se dit, mais alors, il n'y a pas une collection pour les latinos, une collection, non. Si nous parlons de littérature, nous disons c'est simplement le grand monde. Alors pourquoi, eh bien, nous faisons partie de cette patrie de mots. Alors pourquoi, eh bien, créer donc une collection. Même au départ, cette collection, eh bien, devait exister pour lancer de jeunes auteurs. C'était ça d'abord le but. Et après, il fallait tout simplement les intégrer, eh bien, aux collections classiques générales de Gallimard. Mais cela n'a pas été fait. Mais moi, ce qui m'a le plus froissé, un peu frustré, c'est que j'ai vu très vite que les livres publiés dans la collection Continent Noir et ceux publiés dans les autres collections comme La Blanche, classique de Gallimard, n'avaient pas le même accueil. Quand vous allez dans la librairie à Paris, on vous était toujours mis quelque part à littérature du Sud, coincé quelque part entre deux étagères. C'est une manière de cloisonner l'écriture, la littérature qui m'a pas plu. Moi, j'avais pas un problème avec la collection. C'est la lecture que les gens avaient de cette collection-là. C'est le traitement que les libraires avaient commencé à faire de cette collection qui m'a un peu, qui m'a déçu. Et moi qui n'aime pas les carcans, moi qui me considère un peu comme un albatros, eh bien je voulais aller plus loin, je voulais un peu sortir. Donc on a essayé de quitter un carcan, le carcan tropical. Alors oui, ne pas s'enfermer dans un autre carcan. Mais je précise quand même que cette collection a publié des livres formidables, ça je le dis. Mais malheureusement, parce que ça a été publié dans la collection, peut-être que les livres n'ont pas eu l'audience qu'ils auraient dû avoir. Mais je voudrais insister sur le fait que le Schifano, qui tient la collection, fait un travail formidable. C'est un monsieur très, très passionné. J'ai rencontré des gens très, très passionnés au Boréal. J'en ai vu également à Paris, mais qui font le boulot d'une manière un peu trop mécanique. Mais ce monsieur-là, il est passionné. Et la preuve, donc, malgré tout le discours autour du ghetto, il continue quand même son travail. Mais je crois que, eh bien, on ne devrait pas enfermer, eh bien, la littérature dans une couleur.
En tout cas, si c'est ça une réponse politique, ce n'est pas dans la langue de bois. Vous avez parlé très, très simplement et vous avez donné une réponse d'écrivain. C'est très bien. La littérature sur une place exposée à tous les vents, voilà où elle doit être. D'autres questions, peut-être, si, pour la fin? Oui, monsieur, allez-y une dernière et puis après on va conclure.
Oui, excusez-moi, mais bon.
Non, vous êtes passionné, manifestement, vous êtes.
Oui, je voudrais revenir encore sur les pieds sales. D'abord, je vois que le roman est rempli de mythes. Je ne sais pas si je vais les appeler des mythes littéraires, mais je vois la photographie, et je vois le taxi, donc ça me renvoie à Taxi Driver de Martin Scorsese. Oui, oui. Et puis, quand je considère un peu aussi la fin du roman, je retrouve Thelma et Louise, comprenez. Donc, je voudrais voir, vous demander si vous avez eu quelque influence sur des road movie ou bien Taxi Driver movie. Et puis ensuite, la question, c'est de savoir si vous avez une petite envie de voir un jour votre livre transformé en film. En fait, c'est ça même la question.
Quel écrivain ne le veut pas, non?
Ah bah oui, je pense que ce serait très très bon pour ma poche, hein, si c'était transformé en film, oui. Moi j'adore le cinéma, j'adore Martin Scorsese. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans à New York. Raison pour laquelle depuis ce jour je porte des lunettes noires. Ah, monture noire, non, c'est pas vrai. Mais j'adore Martin Scorsese. Oui, Taxi Driver, c'est un classique. Hein. Robert De Niro, formidable dans ce film-là. Et bien plus tard, je crois qu'on fait des Japonais et des Péruviens ont fait un autre film, un peu hein, dans la même thématique, Kamikaze Taxi. Un taxi qui serait un peu suicidaire comme Askia aussi. Donc j'ai vu ce film-là. On a aussi travaillé, même avec Pierre ensemble, sur ce film à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, dans la chaire de recherche en transfert littéraire et culturel. On a visionné beaucoup de films. Moi, ça m'a beaucoup pas, oui. Beaucoup intéressé. J'ai beaucoup aimé ça. Kuruma, qui dans son dernier livre, hein, qui n'a pas eu le temps de terminer avant de mourir d'ailleurs, parlait de ces réfugiés-là qui fuyaient. Qui prenait ces taxis brousses et qui essayait un peu de mettre la distance entre eux et le danger. Ça m'a beaucoup, oui, moi je. Ouais. Mais le taxi aussi, parce que je voulais être quand même crédible. Ce personnage, je voulais d'abord le camper dans la peau d'un vendeur de marrons. Parce que qui serait là à Paris, qui serait au sortir du métro et qui offrirait pendant l'hiver des marrons chauds.
Il y en a d'ailleurs touristes. Un personnage qui...
Oui, Monsieur Ali de Portside, oui, c'est vrai. J'ai fait l'effort d'être un peu crédible, parce que ce n'est pas mon souci, vraiment. Moi, je suis dans le roman. Et alors, c'est vrai que la plupart des vendeurs de marrons à Paris, c'est des Asiatiques, c'est des Indiens, hein, de Jaipur ou de Mandalay ou de Bombay. Mais beaucoup de taxis, comme à Montréal d'ailleurs, sont noirs ou sont africains, ici comme ils sont beaucoup de Haïtiens, beaucoup de noirs. Je pensais qu'on allait très vite, voilà quelque chose qui coïncide avec une certaine réalité. Hein, et le taxi, c'était aussi eh bien, la possibilité esthétique de pouvoir faire circuler de manière permanente mon personnage. Oui, donc il y a tout ça. J'avoue, donc, c'est cette passion pour ce cinéma de la route. Road movie, Jack Kerouac. Ah oui, moi je suis un. Oui. Jack Kerouac, je prends, oui, sur la route.
Bien. Alors, Edem Aoumé, pardon, merci d'avoir si généreusement accepté de répondre à nos questions de 10 000 $, d'avoir ajouté votre propre mise par vos réponses. Merci au public de son attention, de ses interventions, aux gens de la librairie Olivieri qui nous accueillent. C'est toujours un plaisir d'être ici, au milieu des livres. Bien sûr, aux auditeurs de la radio Spirale et aux gens de Spirale. Bien sûr, l'échange peut se poursuivre sur un mode plus intime là entre vous et le public. Il y a les livres aussi, on peut se les procurer, se les faire signer si on veut, et puis bonne continuation. Je crois que vous avez fait des débuts pas fulgurants mais remarquables, comme je l'ai dit au début, et que l'œuvre, si vous êtes un homme du présent qui prend appui sur le passé, l'œuvre à venir est aussi intéressante. En tout cas, nous la lirons, nous la suivrons. Merci Edem Aoumé. Merci, bonsoir.
Merci à vous, merci.